Sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et je commence cette émission par un communiqué de presse. Voilà, le pôle presse du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation vous informe qu'il existe désormais un numéro d'appel d'urgence pour les aides financières à destination des étudiants en situation de précarité. Donc pour répondre aux situations ponctuelles d'urgence, de nombreuses aides sociales pour les étudiants existent. Elles sont néanmoins encore trop peu connues et utilisées. Pour remédier à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation met en place à partir du 10 janvier 9h, donc c'est aujourd'hui, un numéro d'appel, le 0806 30 278. Ce numéro d'appel est destiné à informer les étudiants sur les bourses et les aides relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, c'était un communiqué de presse du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et maintenant, je passe la parole à mon invité, puisque l'émission, évidemment, ne va pas se résumer à ce communiqué de presse. Bonjour Christophe Bressac.
Bonjour.
Alors Christophe Bressac, vous êtes enseignement-chercheur à l'IRBI, à l'Université de Tours. Alors peut-être que vous voulez, pour commencer, nous présenter l'IRBI. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste?
Alors on va commencer par quelque chose qui va mettre l'Université de Tours en valeur. L'IRBI, c'est le plus grand laboratoire européen spécialisé sur l'étude de la biologie des insectes. IRBI, ça veut dire Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte. Et il y a une soixantaine de personnes, moitié permanents, moitié en contrat plus court, qui travaillent sur l'étude de la biologie de tous les insectes qui existent en fonction des thématiques qui sont développées, soit en relation avec d'autres laboratoires, soit des thématiques appliquées sur des insectes utiles ou nuisibles. Mais ça, je pense qu'on en reparlera.
Voilà, alors peut-être que vous voulez détailler l'IRBI, c'est trois unités de recherche, il me semble. Vous avez chaque unité a ses spécificités.
Oui, trois équipes de recherche exactement, qui sont associées donc entre l'Université de Tours et le grand organisme de recherche qui est le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et qui sont alors spécialisées non pas sur des insectes particuliers, mais plutôt sur des approches et sur des thématiques. L'équipe dont je fais partie, je vais commencer par elle, s'appelle Relations entre les insectes, les microbes et les plantes. Et c'est une équipe qui s'est formée autour des thématiques qui sont des thématiques de lutte biologique que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire qu'on utilise des insectes qui sont bénéfiques pour pouvoir lutter contre les ennemis des végétaux. Et donc il faut comprendre la plante, la manière dont elle se défend et la manière dont elle est adaptée aux différentes attaques par des insectes ravageurs, donc plantes cultivées ou plantes sauvages. Il faut comprendre l'insecte ravageur en lui-même, savoir comment il attaque la plante, à quel stade, est-ce que c'est sa chenille ou est-ce que c'est sa larve, pardon, ou l'adulte qui se nourrit de la plante, est-ce qu'il se nourrit de toute la plante ou juste des racines, des fruits, des graines, des feuilles. Et puis il faut comprendre les ennemis de ces insectes-là, donc c'est basé sur le principe des ennemis de mes ennemis sont mes amis. On utilise les insectes qui sont prédateurs ou qui sont parasites des insectes ravageurs pour pouvoir protéger les plantes, et en particulier les plantes cultivées, contre les invasions des insectes nuisibles. Donc ça, c'est une équipe qui s'occupe de ça. Une autre équipe, ça va s'intéresser beaucoup aux relations entre les insectes entre eux, comment ils communiquent. Soit les insectes des mêmes espèces qui communiquent au sein de groupes sociaux, pensez aux abeilles, pensez aux fourmis, pensez aux termites aussi, qui ressemblent beaucoup aux fourmis mais en fait qui ont quasiment rien à voir au niveau biologique, qui sont des insectes qui sont capables de se reconnaître entre eux à l'intérieur d'une même colonie et reconnaître aussi les individus des colonies qui ne sont pas apparentés pour pouvoir s'en défendre. Donc cette reconnaissance entre les insectes est basée principalement sur des signaux comportementaux, mais surtout aussi sur des signaux chimiques. Donc c'est une équipe qui étudie beaucoup la manière dont les insectes communiquent entre eux par signaux chimiques. Il y a d'autres thématiques développées dans cette équipe, mais c'est principalement cette base qui les réunit. Et puis une autre équipe va s'intéresser aux relations entre les insectes et leur environnement en général. L'environnement physique qu'il y a autour des insectes, la température, la vitesse du vent, pourquoi pas les ondes électromagnétiques ou autres, tout ce qui va intéresser l'insecte dans son environnement et tout ce qui va faire qu'il va pouvoir se déplacer, s'orienter et puis pourquoi pas cibler différentes parties de l'environnement pour y vivre, pour dormir, en fonction de la température, en fonction des risques qu'il y a à se faire manger par d'autres prédateurs. Et donc toutes ces orientations et toutes ces relations de l'insecte avec l'environnement forment la thématique principale de la troisième équipe du laboratoire.
Alors peut-être une question sur le fonctionnement de ce laboratoire. Est-ce que vous avez des collections d'insectes ou alors des champs pilotes où il y a des plantes et des insectes? Comment vous étudiez en vivant les insectes?
Alors il y a beaucoup d'approches qui sont, on va dire, superposées au niveau du laboratoire. Les plus évidentes à comprendre, c'est les études de terrain. Donc on a quelques scientifiques et techniciens dans notre laboratoire qui sont spécialistes des études de terrain, qui vont sur le terrain pour collecter des individus, pour les piéger éventuellement, pour pouvoir faire des dénombrements en fonction, par exemple, de l'altitude dans les montagnes. On a certains insectes qui vivent plus facilement en été, d'autres plus facilement en hiver ou autre. Donc ça, c'est des, on les appelle nous des écologues, hein, pour pas utiliser le mot d'écologiste, des gens qui étudient les insectes sur le terrain. D'ailleurs, dans les formations qu'on a au niveau de l'université, les formations de master en particulier, il y a des initiations et des familiarisations des étudiants qui se font sur ces études de terrain. Il y a beaucoup de collègues dont je fais partie qui travaillent avec des élevages d'insectes. Ça veut dire qu'au laboratoire, on a une trentaine d'espèces d'insectes qui sont élevées au laboratoire et sur lesquelles on peut collecter les mâles, les femelles, les jeunes, les vieux, les individus qui sont bien nourris, les individus qui sont mal nourris et autres. Donc on peut vraiment expérimenter sur ces insectes. Et ça, c'est une des originalités de notre laboratoire, c'est d'avoir au sous-sol ce qu'on appelle un insectarium qui permet d'avoir des insectes vivants en collection. Et donc une grosse activité du laboratoire consiste à élever ces insectes, à les nourrir, à les faire se reproduire et à les placer dans des conditions dans lesquelles ils peuvent exprimer au maximum leur comportement naturel. Il y a une partie des chercheurs qui travaillent sur des insectes congelés, donc des insectes ou des parties d'insectes congelés. Maintenant, avec les techniques de biologie moléculaire, à partir d'un bout de patte ou d'une antenne, on peut très bien reconstituer le génome de l'insecte et donc savoir à qui on a affaire, à quel sexe, dans quelles conditions il a été nourri, même si il a été en contact avec des insecticides ou autres. On a beaucoup de choses qu'on peut diagnostiquer à partir de ces insectes congelés. Donc beaucoup de nos collections sont au congélateur. Et puis on a évidemment des collections type, on va dire type muséum, pour donner un ancien nom, qui sont des collections d'insectes qui sont conservées en boîte et qui sont ce qu'on appelle des échantillons de référence. Ça veut dire qu'ils permettent de reconnaître les insectes collectés sur le terrain à partir de ce qu'on appelle les morphotypes, c'est-à-dire les insectes qui ont été collectés il y a assez longtemps, qui ont été conservés de manière sèche, hein, dans des boîtes, et qui permettent de reconnaître les espèces et la diversité des insectes collectés dans la nature.
Et alors ces collections, pour les plus anciennes, elles datent de quand ?
Alors pour les plus anciennes, j'ai pas les dates exactes. Le laboratoire n'est pas un centre de référence, contrairement au muséum, sur les collections d'insectes. C'est-à-dire que on n'est pas obligé, en quelque sorte, de garder des diversités d'insectes importantes. Mais on se rend compte que comme l'IRBI est connu comme étant un centre de compétences dans le domaine de la biologie des insectes, beaucoup de personnes font appel à nous lorsqu'il y a des collections d'amateurs en particulier ou de professionnels qui doivent être éliminées ou enlevées de certains endroits. On en a récupéré une il n'y a pas longtemps qui a été collectée pendant une quarantaine d'années par un chercheur de l'Institut botanique d'Angers et qui est revenu dans notre laboratoire et qui sert maintenant de collection de référence. Donc pas forcément très ancienne, mais assez diverse en termes d'origine.
Alors peut-être un mot plus précis sur les formations qui sont dispensées à l'IRBI, puisqu'on est la radio étudiante, donc peut-être que certains de nos auditeurs sont intéressés par les études de l'insecte.
Oui, alors en fait, la plupart des chercheurs du laboratoire sont des enseignants-chercheurs, donc qui ont des charges d'enseignement au niveau des licences, au niveau des masters de l'université, voire même au niveau d'autres universités. Et donc, certains sont responsables de formation dans des domaines qui ne sont pas nécessairement des domaines de biologie de l'insecte, mais dans les domaines dans lesquels on utilise l'insecte comme modèle pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez d'autres organismes. Donc, on est rattaché par exemple au département de génétique et biologie animale, et beaucoup d'enseignants-chercheurs font partie de ce département et font des travaux pratiques, dispensent des travaux pratiques, des travaux dirigés et des cours dans les filières de licence et de master. Et puis il y a des formations plus techniques comme les filières de production animale, d'élevage ou même d'analyse sensorielle dont les enseignants-chercheurs s'occupent et transmettent en quelque sorte des sciences qui sont acquises sur les insectes à d'autres types de modèles.
Alors, c'est quand même des filières qui se destinent plutôt, c'est plutôt pour des bacheliers scientifiques, où on peut, malgré tout, si on est intéressé par les sciences et d'autres choses, accrocher les wagons à un moment ou à un autre.
Alors, il y avait à un moment à l'université un système très très intéressant qui était les UE libres, dans lequel on pouvait choisir d'avoir un enseignement de sciences alors qu'on était plutôt dans le domaine des sciences humaines, par exemple. Maintenant, ce système n'existe plus. En revanche, les passerelles font que on peut très bien accéder à une formation qui est une formation spécifique dans un domaine de biologie à partir d'un socle fondamental qui a été acquis dans une autre spécialité. Pour les étudiants en formation initiale, c'est un peu compliqué. En revanche, pour des cycles qui sont des cycles de formation continue ou des conférences grand public, des conférences basées sur des connaissances transversales, c'est plus intéressant. Surtout que l'université essaye de fédérer maintenant autour d'un même thème et de même thématique commune les scientifiques et les filières qui parlent d'alimentation autour du pôle alimentation de l'université et que certains d'entre nous sont des membres actifs de ce pôle alimentation. Donc les insectes ne sont pas oubliés quand on parle d'alimentation, quand on parle d'allergie, quand on parle d'évolution des mentalités et des pratiques au niveau des cultures, au niveau de l'alimentation ou du lien au paysage. Les insectes font partie de ces réflexions-là.
Voilà, donc le lien insecte-alimentation, on en reparlera plus tard, hein, puisque si vous êtes ici, Christophe Bressac, c'est aussi pour présenter une conférence qui aura lieu le 28 janvier. Mais avant de faire une première pause musicale, par curiosité, comment vous êtes devenu biologiste de l'insecte ?
Alors on va dire par hasard, j'étais pendant mes études beaucoup plus ornithologue, je m'intéressais beaucoup aux oiseaux et j'ai fait plusieurs stages de terrain, stages volontaires et j'ai même été guide naturaliste pendant un certain temps pour la Ligue française pour la protection des oiseaux, travaillé sur les zones humides, à faire des comptages d'oiseaux et je me suis occupé aussi de la réintroduction du vautour fauve dans les gorges de la Jonte, pas très loin de la Lozère. Et ce qui m'a amené à faire de la biologie de l'insecte, c'est mon intérêt pour l'évolution. C'est-à-dire que la science fondamentale qui est la biologie de l'évolution s'intéresse à la manière dont les animaux, les végétaux, les êtres vivants évoluent dans le temps en réaction par rapport à leur milieu. Et j'ai eu une proposition à la fin de ce qu'on appelait pas encore un master mais un DEA pour travailler dans un laboratoire qui étudiait la manière dont les mouches drosophiles choisissaient leur partenaire sexuel en fonction des contraintes qui étaient des contraintes d'optimisation de la reproduction. Et donc ça, c'est l'étude de la sélection sexuelle qui est une des contraintes de l'évolution. Donc quand on est face à ce type de choix, ben on fonce. Les opportunités étant rares dans les domaines des sciences appliquées, j'ai foncé et je me suis passionné ensuite pour cette fameuse sélection sexuelle chez les insectes. Et ça m'a amené à être compétitif sur un concours qui avait été lancé par l'ancêtre de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte pour travailler sur les contraintes évolutives qui amenaient les insectes à choisir leur partenaire sexuel. Et c'est toujours ce que je fais maintenant.
Et vous êtes combien de chercheurs à travailler sur ce sujet à l'échelle nationale peut-être ou internationale ?
Alors à l'échelle nationale, on a chaque année un congrès qui s'appelle le congrès de biologie de l'insecte et qui réunit entre 100 et 130 personnes de divers horizons. Il y a des chercheurs en agronomie hein, qui sont, on va dire, plus intéressés par la lutte contre les insectes nuisibles ou le fait de favoriser des insectes bénéfiques. On a quelques chercheurs en entomologie médicale qui étudient plus les moustiques ou les vecteurs de maladies et les insectes en particulier puisque ce sont certains vecteur de maladie. On a quelques chercheurs qui, comme moi, étudient plus les sciences de l'évolution et la manière dont les insectes subissent et réagissent à des contraintes qui sont soit des contraintes de milieu, soit des contraintes qui sont dues aux autres organismes. Et puis après, il y a des chimistes, il y a des physiologistes qui étudient les insectes comme étant un modèle par exemple de diversité des bactéries dans le tube digestif, un modèle de résistance à la température, en cas de choc thermique, etc., etc.
Eh bien, je propose de faire une première pause musicale et nous allons écouter Avishai Cohen. Rien à voir avec les insectes, mais on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour. Avishai Cohen sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Mon invité Christophe Bressac, enseignant-chercheur à l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte. Voilà, Université de Tours, ça se trouve sur le site Gramont de la Fac de Tours. Et sur ce site, il y a aussi, c'est vraiment l'endroit où il y a toutes les formations scientifiques. Le site Gramont, qu'est-ce qu'on y trouve?
Oui, alors c'est la Faculté des Sciences, hein. On n'appelle plus UFR, maintenant on l'appelle Faculté. Donc on va y retrouver les formations scientifiques, bien entendu en biologie, dans les domaines de la chimie, de la physique, des mathématiques. On va y retrouver aussi le campus qui est le campus de la pharmacie, qui logiquement s'est rapproché de la biologie, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une bibliothèque commune sciences-pharmacie. Et puis il y a aussi l'IUT de génie mécanique qui est sur le même campus. C'est pareil, ça donne, on va dire, une unité à ce niveau-là. Alors, les formations de biologie sont aussi présentes à l'IUT Tournord, Pont-Volant. Et puis, il peut y avoir d'autres cycles de formation biologique qui sont faits un petit peu ailleurs. Mais c'est vrai que le campus est dédié aux sciences, on appelle les sciences dures en général, aux sciences expérimentales. Et les équipements permettent aussi d'avoir justement ces élevages et autres sur place.
Alors Christophe Bressac, on peut avoir l'impression parfois que les insectes, c'est un peu les mal-aimés du règne animal, parce qu'on en entend quand même assez peu parler. Et je vois par exemple avec le drame qui se passe en Australie, hein, on entend parler beaucoup des koalas et des kangourous, mais très peu des insectes qui ne sont pas comptés d'ailleurs dans les espèces qui ont été dévastées. Alors pour autant, ils sont là aussi, et à mon avis, il y a peut-être des espèces qui n'existent aussi qu'en Australie, dans les insectes. Alors pourquoi les insectes sont aussi, comment dire, pas oubliés, mais en tout cas moins pris en compte?
Alors c'est vrai que l'étude des insectes est moins médiatisée que l'étude des dauphins, des koalas ou des loups. D'abord, je ne suis pas psychologue, mais je pense que l'attirance vers ce qui nous ressemble, ben, est plus facile que vers ce qui nous ressemble pas. D'ailleurs, certains insectes ont plutôt un capital sympathie, soit parce qu'ils sont beaux, soit parce que ils ont une certaine ressemblance avec l'humain qui fait qu'on peut plus facilement les caractériser. Je pense à la coccinelle, par exemple. Et si les gens connaissaient le régime alimentaire de la coccinelle, ils n'aimeraient plus du tout, puisque c'est ce qu'on appelle un super prédateur. Et c'est un animal qui peut être extrêmement envahissant lorsque ses populations sont mal maîtrisées. Les papillons ont plutôt un bon capital de sympathie, au moins pour les papillons de jour, puisque les papillons de nuit, au contraire, sont plutôt des nuisibles. Et puis, on a toujours tendance à craindre ce qu'on ne connaît pas, et les insectes ont pour certains une mauvaise presse et une mauvaise réputation parce que tout simplement on les connaît pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de moyens de lutte contre les insectes que de moyens pour les favoriser. Donc ce qu'on dit pour l'Australie est vrai pour d'autres pays, c'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque les écosystèmes sont perturbés par l'action humaine ou par des catastrophes naturelles, quelle que soit leur origine, hein, puisqu'en Australie finalement ces feux sont des feux d'origine sans doute naturelle, la biodiversité dans sa globalité est affectée, et les insectes sont affectés comme les autres animaux à la fois privation de nourriture et privation de leur environnement de vie. On ne connaît actuellement que sans doute entre un cinquième et un quart des espèces d'insectes présentes sur la Terre, et les spécialistes du domaine, qui sont des entomologistes de terrain, disent toujours, et je pense qu'ils sont en vérité, hein, qu'ils ont raison quand ils disent ça, que les insectes disparaissent plus vite qu'on les découvre, hein, c'est-à-dire qu'on risque dans les générations futures d'ignorer la présence de certaines espèces d'insectes parce que tout simplement elles auront disparu avant qu'on ait pu les décrire. La thématique biodiversité, c'est quelque chose qui est extrêmement importante lorsqu'on étudie les insectes, parce que justement ce sont des espèces qui sont extrêmement diverses. J'enchaîne peut-être sur une idée suivante, on connaît dans le monde entre 2000 et 2500 espèces d'oiseaux qui sont décrites à la fois dans tous les continents et dans tous les écosystèmes, et après sans doute entre 4 et 8 millions d'espèces d'insectes. Donc vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre la diversité qui est la diversité des oiseaux et celle qui est des insectes. Ça ne veut pas dire que les insectes sont plus importants que les oiseaux, mais ça veut dire qu'ils ont une diversité au niveau des espèces et au niveau des milieux de vie qui sont beaucoup plus importantes. Et le poids cumulé de tous les insectes sur la Terre est à peu près 800 fois plus important que celui des humains. Donc ça veut dire que c'est aussi ce qu'on appelle une biodiversité fonctionnelle, que dans les systèmes naturels et dans les systèmes qu'on appelle anthropisés, hein, qui sont les systèmes qui bénéficient à l'homme, les insectes sont peut-être 800 fois plus importants que l'humain en termes de recyclage des composés végétaux, en termes de structure du sol, en termes de tout simplement d'interaction dans l'environnement.
Voilà, donc vous parliez aussi tout à l'heure d'insectes bénéfiques Est-ce que vous voulez peut-être en préciser quelques-uns? Peut-être la coccinelle qui est utilisée pour manger les pucerons, mais il n'y a sûrement pas que ça.
Ouais. Alors, la coccinelle, c'est l'ami ennemi, hein. C'est-à-dire que c'est un des insectes les plus emblématiques dans ce qui concerne la lutte biologique. C'est sans doute pas le plus important, mais c'est le plus facile à communiquer auprès du grand public, parce que justement la coccinelle a un capital sympathie que n'ont pas les autres insectes. D'ailleurs, c'est un des rares insectes à avoir un nom français, un nom vernaculaire, alors que la plupart des insectes n'en ont pas, on les appelle par leur nom latin. Et c'est un insecte qui est utilisé en lutte biologique pour pouvoir réguler les populations de pucerons, parce que c'est un grand mangeur de pucerons. Dans les espèces qu'on connaît, il y a eu des introductions et des manipulations de populations de coccinelles qui se sont heureusement terminées pour la protection en lutte biologique et la diminution des pucerons. Et il y a eu malheureusement aussi des introductions qui ont été catastrophiques avec certaines coccinelles, en particulier une coccinelle asiatique qui, dans son milieu d'origine, mangeait bien des pucerons en Asie, et puis en France s'est mis à manger un peu n'importe quoi, et en particulier les autres coccinelles. Ça veut dire que, en fait, c'est pas l'adulte hein, de coccinelle qui mange les pucerons, c'est plutôt la larve, et les larves de cette coccinelle asiatique se sont mis à s'attaquer aux coccinelles occidentales, voyant que c'était beaucoup plus facile de les manger que d'aller manger des pucerons. Donc dans toutes ces expériences qui sont des expériences d'introduction ou de favorisation d'une espèce par rapport à une autre, il y a des fois des choses qui se passent mal. On parlait de l'Australie tout à l'heure, l'introduction des lapins en Australie n'a pas été que bénéfique non plus, puisque le lapin européen s'est mis à manger autre chose que ce qu'on lui destinait au départ, et que les populations de lapins se sont mis à proliférer, puisque quand les colons, en quelque sorte, ont introduit le lapin au XVIIe siècle en Australie, ils ont en même temps éliminé les prédateurs potentiels de ces lapins. Et donc, il y a eu des pullulations de lapins absolument incontrôlées. Donc, dans toutes les histoires d'introduction d'espèces, il y a des choses qui se passent bien, puis il y a des choses qui se passent mal. Et la coccinelle en fait partie.
Alors, comment on rattrape une expérimentation ratée, n'exagérons rien, mais il y a des... ne se passe pas comme prévu. Comment on fait ?
Déjà, on prend beaucoup plus de précautions que ce qu'on prenait il y a, on va dire, une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que maintenant, avant d'introduire une espèce volontairement dans le milieu environnemental, il faut avoir réalisé des expérimentations d'abord en laboratoire, en milieu confiné, ensuite sous serre, dans des milieux qui sont des milieux aussi maîtrisés, pour pouvoir avoir plusieurs générations de ce futur insecte bénéfique, avant de pouvoir l'utiliser en plein champ. Et puis il y a un facteur qui est un facteur important maintenant qu'il faut prendre en considération, c'est le facteur économique. C'est-à-dire que souvent un problème qui est un problème de ravageurs de culture ou de ravageurs de récolte, hein, dont on parle moins mais qui sont aussi importants, c'est souvent un problème qui a de multiples solutions, et une solution individuelle ne va pas résoudre le problème. Donc on travaille beaucoup, je dis on, c'est-à-dire nous, les biologistes des insectes travaillent beaucoup avec d'autres biologistes et avec d'autres scientifiques pour pouvoir décider ou non de l'utilisation d'une nouvelle espèce dans la lutte contre un ravageur ou contre une espèce envahissante, parce que souvent les considérations qui sont des considérations environnementales ne sont pas liées à un seul paramètre. Je résume en disant, on veut supprimer un insecticide, par exemple, si je reprends mon exemple contre les pucerons, ce sera pas une coccinelle qu'il faudra introduire, mais ce sera une coccinelle, deux acariens, peut-être un autre puceron, et en même temps changer le cultivar de la tomate en question pour pouvoir avoir une solution qui soit une solution viable.
Alors, est-ce que vous voulez préciser pourquoi une coccinelle plus des acariens plus autre chose ?
Ben parce que souvent l'insecticide qu'on utilisait avant était un insecticide systémique qui détruisait et qui maîtrisait les populations du puceron ravageur à différents stades, et puis on va se rendre compte que la coccinelle préfère manger des adultes alors que les acariens prédateurs préfèrent manger des juvéniles, que le puceron en lui-même va avoir une capacité de dissémination qui va changer lorsqu'il est mangé par un prédateur alors qu'avant il n'était pas mangé, donc il va y avoir des adaptations aussi qui vont être faites, des refuges en particulier dans les racines ou sous les feuilles de diverses plantes. Et donc, on va travailler avec des gens qui sont spécialistes de l'architecture des plantes et qui vont définir aussi les milieux qui sont les milieux de refuge de ces ravageurs, avant de pouvoir ensuite utiliser une solution qui soit une solution globale contre cet insecte. Et souvent, le grand public et les politiques ont du mal à comprendre que lorsqu'on supprime, par exemple... on va dire un insecticide, hein, mais mettons-le dans la grande famille de ce qu'on appelle maintenant les pesticides, bien que ce mot soit pas un mot français, on devrait dire un phytosanitaire. Lorsqu'on supprime une solution, ben, il va falloir l'adapter à partir de la connaissance de l'insecte contre lequel on veut lutter, alors que lorsqu'on appliquait un insecticide, on n'avait pas besoin de connaître l'insecte, on mettait l'insecticide et puis ça le tuait. Donc toute cette biologie de l'insecte est aussi basée là-dessus, sur la manière dont on peut étudier les diverses caractéristiques des organismes pour pouvoir ensuite soit les favoriser, soit lutter contre. Et ça nécessite plus de temps que la mise au point d'une nouvelle solution chimique qui sortira aussi des laboratoires, mais qui sera cette fois applicable en une fois.
Alors, dans l'idée de travailler sur le génome des insectes, est-ce que sur ces insectes bénéfiques, on peut imaginer, par exemple, que vous pourriez créer, inventer des populations d'insectes bénéfiques stériles ? Donc comme ça ne se reproduirait pas à l'envi sur le champ à traiter.
Oui, c'est une des solutions, hein, une des solutions qui est d'ailleurs adaptée à partir de la lutte biologique cette fois sur les insectes, les insectes nuisibles. Donc sur certaines populations d'insectes nuisibles, on a vu ça par exemple les mouches des fruits qu'on connaît pas trop chez nous, mais qui sont très très présentes dans le bassin méditerranéen et dont les larves détruisent les fruits avant même qu'ils ne soient matures. Dans les années 60, il y a eu des lâchers de mâles stériles. Et ces mâles stériles, qui étaient élevés en laboratoire et ensuite stérilisés souvent par irradiation radioactive, étaient tout à fait capables de s'accoupler avec les femelles. Mais comme ils étaient stériles, les femelles ensuite pondaient des œufs stériles. Donc ça marche dans certaines situations, ça marche pas dans d'autres. Ça pose le problème de l'introduction de nouvelles populations dans le milieu naturel, qu'il faut pouvoir maîtriser. Et puis c'est une solution qui est envisagée maintenant pour lutter contre les moustiques, par exemple, à certains endroits de la Terre. Alors, on modifie pas le génome des insectes, parce que ça, c'est des choses qui relèvent pour l'instant de la science-fiction, mais on se débrouille pour que des insectes soient introduits dans le milieu, donc soit des insectes bénéfiques, soit des insectes nuisibles, et qui perturbent en fait le cycle des insectes qui existent déjà. Alors là, faut pas jouer à l'apprenti sorcier non plus, parce que quand on commence à lancer sur le terrain des insectes dont les caractéristiques biologiques ont été transformées en laboratoire, on introduit aussi des nouvelles composantes du milieu, et il faut pouvoir aussi les maîtriser, d'où l'importance de ces études préliminaires. Alors les études préliminaires, ça énerve un petit peu les professionnels des filières qui se disent « nous on aurait besoin d'une solution dans 6 mois ». Et nous, en oncologistes, on leur répond « vous aurez peut-être la solution, mais dans 4 ans ». Et ça nécessite d'avoir ces expérimentations intermédiaires pour pouvoir savoir un petit peu où on va. Et surtout prévoir ces applications et ces considérations multiples de ce qu'on fait quand on modifie un système naturel.
Alors sur l'idée de, vous avez rappelé que c'est pas possible de modifier le génome, mais que dit la loi à ce sujet ?
Alors c'est possible de modifier le génome, on le fait sur certains insectes, ça se fait dans certains pays. On modifie en particulier, alors pas forcément le génome lui-même, parce qu'à ce moment-là on obtient ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on ajoute ou on enlève une petite partie du génome de l'insecte pour lui permettre d'avoir une caractéristique en plus ou une caractéristique en moins. Ça se fait relativement bien sur certaines plantes, ce qu'on appelle vulgairement les OGM. Ça se fait pas très très bien sur les animaux, en particulier sur les insectes, parce que souvent ça perturbe plusieurs fonctions en même temps. Mais on peut éteindre ou allumer certaines parties du génome. Éteindre ou allumer, ça veut dire leur permettre de s'exprimer alors que normalement ces parties du génome ne s'exprimaient pas. Ou allumer, ça veut dire leur permettre éteindre, ça veut dire leur permettre de ne pas s'exprimer, et allumer, ça veut dire leur permettre de s'exprimer. Et là, à ce niveau-là, on a une catégorie spécifique d'animaux, d'organismes, que ce soit des bactéries, des insectes ou d'autres types d'animaux, ça se fait beaucoup chez des souris aussi, mais qui sont confinés à des environnements de laboratoire, qu'on se permet pas, nous, en Europe, de lâcher dans la nature. Alors peut-être que en Amérique du Sud ou en Asie, ils ont la possibilité de le faire, mais nous, on sait qu'en Europe, on ne le fera pas.
Pourtant, je me fais avocat du diable, mais peut-être qu'il y a des industriels ou des personnes qui pourraient dire « c'est dommage, parce que nous, ça nous arrangerait, en fait, que les biologistes puissent faire ça pour produire des insectes qui seraient intéressants pour nos cultures. »
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, qui seraient intéressants pour nos cultures, qui seraient intéressants pour protéger nos cultures. Alors, On le voit plus sur des insectes qui seraient des insectes nuisibles, chez lesquels, par exemple, on ajouterait une caractéristique qui serait une caractéristique de mourir à une température élevée, un peu plus élevée, ou de ne pas pouvoir... C'est valable pour les plantes, par exemple. Les plantes fabriquent beaucoup de composés toxiques que certains insectes sont capables de détoxifier. Donc, un des rêves de professionnels de la sélection des plantes, ce serait de pouvoir faire en sorte que ces insectes qui sont capables de détoxifier ne puissent plus détoxifier la plante et donc s'empoisonnent en quelque sorte en mangeant la plante. Donc, on parlait des pucerons tout à l'heure. Les pucerons ont toute une batterie de gènes et d'associations avec des bactéries qui leur permettent de détoxifier les plantes et donc de s'en nourrir. Et alors que d'autres insectes ne sont pas capables de le faire. Donc ça permettrait de le faire. En revanche, souvent, la problématique qui intéresserait des professionnels serait des solutions universelles, alors que ce type de solution serait une solution unique. C'est-à-dire que, par exemple, si je parle de mon histoire de détoxification, on rendrait un insecte susceptible à une toxine particulière, mais pas à tout un cortège de toxines. Donc finalement, économiquement, ce ne serait pas très intéressant, parce que ça résoudrait un problème, mais ça ne résoudrait pas une multitude de problèmes. Et souvent en biologie, que ce soit en biologie des milieux naturels, donc en écologie, ou en biologie des milieux anthropisés, donc plus en agronomie ou en biologie médicale, la question qui est posée est souvent une question multiple. Et pour répondre à une question multiple, il faut une réponse multiple, il ne faut pas une réponse unique. Donc modifier un insecte de façon à ce qu'il corresponde à toutes les caractéristiques dont on a besoin pour pouvoir le rendre soit moins nuisible, soit plus utile pour les écosystèmes, ce serait... trop compliqué et puis sans doute trop cher pour les professionnels.
Oh bah zut alors, voilà, une fausse bonne idée qui tombe à plat. Alors Christophe Bressac, vous parliez de détoxifier une plante, donc ça on imagine que ça peut être intéressant pour le domaine médical, de se dire bah tiens, si on repère un insecte qui peut qui a la ressource pour lutter contre un poison quel qu'il soit, ça peut être intéressant. Donc là on a peut-être une application pour la médecine.
Oui, c'est possible. C'est possible. En fait, la lutte... je parlais d'évolution au départ, mais il faut le comprendre comme ça. Les relations entre les organismes sont des relations de lutte. C'est-à-dire que ce que va trouver une plante à se faire brouter par une vache, c'est le fait de ne pas pouvoir se reproduire, mais en même temps, c'est le fait d'être plus dynamique. Et il faut imaginer que les animaux, les plantes, les insectes et les gros mammifères que nous sommes passent leur temps à se défendre des protections que mettent les différents chaînons alimentaires pour ne pas se faire manger ou pour ne pas se faire, entre guillemets, ravager. Et au niveau de la médecine, ce qui va intéresser beaucoup les gens qui travaillent soit sur les plantes toxiques, soit sur les insectes qui sont les insectes vecteurs, c'est la manière dont on peut soit contourner, soit en quelque sorte absorber leurs diverses défenses. Un insecte se défend d'une manière ou d'une autre, tant pis, on va l'attaquer, mais par un autre côté. Je parlais des moustiques tout à l'heure, les moustiques ont des larves qui vivent dans l'eau, et les adultes vivent dans l'air, sont des adultes aériens. Les mâles se nourrissent de nectar de fleurs, et les femelles, pour pouvoir pondre, ont besoin de faire un repas de sang. Et c'est au moment où ce repas de sang se fait que peut se faire une contamination par un micro-organisme. Les moustiques en eux-mêmes sont pas dangereux, ils piquent, ils grattent, mais ce qui est dangereux dans les moustiques, c'est les virus et les bactéries et aussi les protozoaires, c'est-à-dire les parasites qui peuvent transmettre. Mais pour qu'une femelle transmette ces parasites, il faut qu'elle ait piqué quelqu'un qui était contaminé par ce parasite. Donc ça veut dire qu'une femelle qui est dangereuse en médecine tropicale ou en médecine vis-à-vis des insectes, c'est uniquement les femelles, adultes bien entendu, qui ont déjà piqué quelqu'un et que cette personne était contaminée par un protozoaire ou par un virus. Et il faut à ce moment-là qu'elle repique quelqu'un d'autre. Si on arrive à faire en sorte que la femelle puisse ne piquer qu'une seule personne, au lieu d'en piquer deux ou trois, et bien à partir de ce moment-là, on aura résolu le problème de la vectorisation de ce type de maladie. Puisque une femelle qui piquerait une personne ne pourrait pas ensuite en repiquer un autre. Si on arrivait à faire en sorte que les populations de moustiques ne produisent que des mâles, on aurait résolu le problème aussi. Si on arrivait en sorte que la larve de moustique ne puissent pas se reproduire dans certains milieux aquatiques parce qu'ils sont trop chauds ou trop froids, on aurait résolu le problème, etc. Donc Une problématique de médecine qui est le fait que certains insectes sont des vecteurs de virus ou de protozoaires peut être résolue de plusieurs manières en étudiant la biologie du moustique qui est un insecte.
Alors, avant de faire une seconde pause musicale, j'imagine nos auditeurs qui paniquent à l'idée d'être piqués par plein de méchants moustiques, ils sont quand même assez rares. Je pense ici à Tours, c'est les anopheles qui transmettent ce genre de maladie. Alors, pour autant, est-ce que vous voulez nous préciser, Christophe Bressac, quels sont les insectes les plus courants ici à Tours? Qu'est-ce qu'on a le plus de chance ou de malchance de rencontrer?
Alors, comme insecte nuisible, on n'en a pas beaucoup. C'est ça l'avantage, c'est que dans nos régions, au moins en ce qui concerne la médecine et on va dire la transmission de maladies, la plupart des insectes dangereux ont été éliminés. Mais faut pas oublier que sous Louis XIV, il y avait encore la malaria qui était présente dans les marais. Beaucoup de milieux humides ont été supprimés aussi, donc ce sont des réservoirs à insectes et qui finalement n'existent plus. Nos milieux de vie à nous ne favorisent pas la présence de certains insectes nuisibles. En revanche, on est toujours face à des insectes qui détruisent nos récoltes, qui détruisent nos cultures et contre lesquels il faut lutter si on veut pouvoir manger l'année suivante. Il ne faut pas oublier que la plupart des productions végétales sont saisonnières, donc on parle toujours de manger des fruits, des légumes de saison, mais essayer de manger du blé de saison, ça veut dire qu'il faudrait manger du pain simplement jusqu'à mi-août et puis ensuite ce serait terminé, on aurait fini notre récolte. Donc évidemment, les conservations de céréales ou les conservations de graines qui dure un an, nécessite aussi une lutte contre les insectes qui sont les ravageurs de stock. Et puis on est confronté à des insectes qu'on considère comme bénéfiques, par exemple les abeilles, on n'en a pas encore parlé, qui sont pourtant les plus grands tueurs qui peuvent exister en France. Chaque année, 120, 130 personnes meurent à cause des piqûres d'abeilles, ce qui est très très loin de prédateurs qu'on considère comme dangereux, comme les frelons ou comme d'autres types d'insectes qui sont impressionnants mais qui finalement ne tuent pas tant que ça. Donc entre l'insecte bénéfique et l'insecte nuisible, il y a souvent des frontières qui sont pas si faciles que ça à admettre. Beaucoup d'insectes sont non visibles, ils sont pas présents dans les maisons, ils sont peu présents dans les jardins, mais pourtant ils ont des rôles très très importants dans le fonctionnement des écosystèmes, tous ceux qui nourrissent nos mésanges, tous ceux qui nourrissent nos hirondelles, ceux qui nourrissent tous les insectivores qui sont présents autour de nous, nos grenouilles ou autres, sont des insectes qui finalement n'ont pas tellement d'importance vis-à-vis de l'humain, mais ont une énorme importance sur les cycles naturels qui nous entourent. Et leur disparition peut aussi, ou leur diminution peut aussi provoquer la diminution d'oiseaux ou d'amphibiens que nous, on considère comme étant utiles et qui finalement sont aussi des indicateurs d'appauvrissement des écosystèmes. Donc des insectes, on va dire, négatifs qui sont très visibles dès qu'il y a des attaques de termites ou autres, à ce moment-là, tout le monde sait que les insectes sont là. Et puis beaucoup d'insectes, c'est-à-dire 95 ou 90%, qui sont invisibles et qui font leur petit travail dans leur coin.
Voilà, après, pour l'idée, c'est pas de foutre la trouille aux auditeurs, pardon, mais dans les maisons, il y en a des insectes, il y en a partout, il y en a plein.
Il y en a plein. Alors, il y a certaines pratiques alimentaires, en particulier le fait que maintenant les gens aiment bien avoir des farines non traitées, des farines bio. Je vois dès qu'on a une petite exposition, une représentation, les gens nous disent comment faire pour lutter contre les mites qui se mettent naturellement dans la farine. Alors moi, je leur réponds toujours quelque chose qui les vexe, c'est que la farine ne doit pas être conservée. Normalement, on utilise le grain, on stocke le grain et quand on en a besoin, on fait de la farine. Alors c'est pas une réponse satisfaisante, pour eux au moins. En revanche, c'est vrai, quand la farine n'a pas été traitée, soit de manière chimique, soit de manière physique, il faut la conserver dans des conditions qui permettent pas aux insectes de la trouver, dans des pots fermés, pourquoi pas la mettre au congélateur. Et à ce moment-là, le geste pour la planète qu'on a économisé en ne mettant pas d'insecticide se retrouve un petit peu confronté au fait qu'un congélateur va fonctionner en permanence dans votre maison. 1000 watts, c'est autant qu'un sèche-cheveux, un congélateur. Et donc, personne n'imaginera un sèche-cheveux qui fonctionne en permanence, pourtant les congélateurs fonctionnent en permanence. Donc, c'est aussi une manière de repenser les interactions qu'on a vis-à-vis des insectes. On reparle maintenant de mythes qui sont les mythes des vêtements, qui avaient disparu pendant un certain 50 ans, mais la mode du coton non traité, je parle pas du coton bio, hein, je parle du coton non traité ou de la laine, va faire revenir des mythes qui sont des mythes des vêtements. Donc il va falloir reprendre maintenant des systèmes qui sont des systèmes d'agitation des vêtements, ou les mettre aussi au froid, ou voire même au chaud pour certains, pour pouvoir tuer les insectes. Et puis, chaque année, on a des fourmis qui envahissent les maisons au mois d'avril, mai, bah, il faut les laisser. Les fourmis sont pas méchantes, elles mangent justement des insectes qui sont plus dangereux, et il faut tolérer qu'il y ait quelques fourmis qui traversent votre salon de temps en temps, puisque sinon, bah, faut falloir utiliser des insecticides, et là, ce sera sans doute beaucoup plus dangereux que les fourmis qui vivent tranquillement dans les plinthes de votre salon.
Voilà, il y a aussi la peur des cafards,
ouais.
Puisqu'on soupçonne toujours les fast-food et autres choses comme ça d'être des nids de cafards.
Oui. Alors ce qui est rigolo, c'est de voir les documents qu'on met dans les émissions de consommation, que je nommerai pas, dans lesquelles on voit qu'il y a encore un contrôle sanitaire dans un restaurant chinois qui a montré qu'il y avait des cafards. Et puis juste le reportage d'après, c'est aller dans les restaurants chinois pour manger des insectes. Donc ça fait un petit peu bizarre en termes de perception. Mais c'est vrai que les insectes peuvent être dangereux, en particulier en restauration et dans les domaines de l'hygiène, non pas parce qu'ils sont présents, mais parce que dans leur tube digestif, il peut y avoir des bactéries qui sont des bactéries négatives pour la santé humaine, et qu'on peut retrouver ensuite dans l'alimentation. Mais bon, apprendre à vivre avec les insectes, c'est quelque chose qui doit se faire dans les générations futures, et qui doit faire en sorte qu'on ait aussi un autre regard vis-à-vis de la présence des insectes dans les maisons, dans les jardins ou dans les cuisines.
Voilà, méditez là-dessus, chers auditeurs. On écoute Avishai Cohen et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tour. Thank you. Avishai Cohen sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Mon invité est Christophe Bressac, enseignant-chercheur à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, l'IRBI, de l'Université de Tours. Alors, avant que cette émission touche à sa fin, Christophe Bressac, peut-être vous voulez nous dire un mot sur cette conférence qui se tiendra le mardi 28 janvier à 18h30, salle Sangor, 1 bis rue de la Préfecture, les insectes dans les filières alimentaires, évolution et révolution, point d'interrogation.
Oui, alors, depuis, on va dire, 5 ou 6 ans, on commence à voir apparaître un nouvelle tendance. Alors, est-ce que c'est un retour d'une ancienne tendance ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle tendance? Ça, c'est plus les sociologues et les historiens qui nous le diront. C'est la présence des insectes dans les chaînes alimentaires. Alors, c'est vrai qu'au niveau, on va dire, publicité, communication et autres, on a toujours tendance à aller présenter des photographies un petit peu exceptionnelles de gens qui se nourrissent d'insectes, d'humains, qui vont voyager au bout du monde pour aller manger des bestioles qu'on considère comme étant dégoûtantes et autres. Donc ça, c'est un peu le côté Koh-Lanta, fais-moi peur, on peut faire du saut à l'élastique, on peut aller s'amuser à se planter des aiguilles sous les ongles, mais on peut aussi s'amuser à manger des insectes à moitié vivants, c'est pas ça qui va nous nourrir. D'autant plus que ça pose un problème pour la biodiversité, parce que souvent ce sont des insectes qui ne sont pas élevés, hein, ceux qu'on va consommer par exemple en Asie, sous forme de brochettes et autres, c'est des insectes qui sont collectés dans la nature, et dont les réserves ne sont pas inépuisables. Donc vous voulez aller manger une menthe religieuse en Thaïlande, et tout un quart de touristes veut manger sa menthe religieuse, ben, ça veut dire que dans un rayon de 35 km, il n'y a plus de menthe religieuse. Donc ça déséquilibre complètement l'écosystème dans le coin. Après, il y a des insectes qui sont utilisés maintenant en tant que nouvelle matière première. Et là, on rentre dans un domaine un peu plus sérieux. Un peu plus sérieux au niveau scientifique et industriel, hein, puisqu'il faut prononcer ce mot-là. Mais aussi un peu plus sérieux au niveau durabilité. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une nouvelle matière première. Une matière première qu'on ignorait jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, qui est l'utilisation des insectes, mais cette fois des insectes d'élevage, pour pouvoir avoir une nouvelle ressource alimentaire, soit pour les humains, mais bon, la plupart du temps, on n'en a pas besoin, soit pour les animaux d'élevage. Et pour les animaux d'élevage, on rentre dans un domaine qui est nouveau, et qui est nouveau surtout depuis une révolution qu'ont connu les filières d'alimentation animale, qui est la crise de la vache folle. Crise de la vache folle, 1996-2000, deux crises de la vache folle. La première, en 1996, on découvre que des animaux peuvent être malades à cause de l'aliment qu'ils mangent. Deuxième crise de la vache folle, en 2000, on découvre qu'un animal qui n'a jamais été élevé à partir de produits animaux peut être malade aussi par ce qu'on appelle une contamination croisée. C'est-à-dire le fait qu'il y ait encore des aliments qui soient contaminants. Alors, tout ça a donné lieu à des recherches fondamentales extrêmement poussées, qui ont mis en évidence, dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la médecine humaine, une nouvelle forme de transmission de maladies, qui ne se faisait ni par un virus, ni par une bactérie, ni par un protozoaire, mais par ce qu'on appelle une protéine qui s'est naturellement transformée, de manière pathologique, qu'on appelle un prion. Et donc, c'est tout un pan de la connaissance, fondamentale autour des maladies, a été développé autour de cette crise de la vache folle. C'est des maladies qu'on connaissait déjà et pour lesquelles les gouvernements ont investi beaucoup plus pour pouvoir avoir des connaissances sur ce sujet-là. Donc au départ, on pensait, si vous reprenez les titres des journaux de l'époque, que ça allait tuer la moitié de l'humanité. Bon, en fait, finalement, on est encore là. Moi, je suis un des survivants de la crise de la vache folle et je ne m'en porte pas plus mal, puisqu'en 1996, j'ai mangé de la vache, j'ai le droit de le dire. Et donc finalement, ce n'était pas une crise sanitaire si importante. En revanche, ça a été une crise industrielle. Crise industrielle au niveau de l'agriculture, on a énormément verrouillé l'alimentation des animaux d'élevage, de tous les animaux d'élevage. Donc les poulets sont devenus végétariens, alors qu'en fait, normalement, un poulet, c'est omnivore. Hein, quand vous le laissez dans la nature, il va manger des insectes, des grenouilles, des lézards, des souris, enfin ce qu'il trouve, voire même les poussins des autres. Les porcs sont devenus végétariens aussi, hein, par la force des choses. Et puis les bovins, qui naturellement étaient des animaux brouteurs, sont redevenus des animaux entièrement végétariens, sachant que naturellement une vache ça mange son placenta, donc il n'y a pas de raison non plus que ça puisse pas manger un peu de viande de temps en temps. Mais bon, ça c'est difficile à faire passer auprès du grand public. Et puis il y a pendant une vingtaine d'années, depuis les années 2000, les animaux ont eu des contraintes, les animaux d'élevage, ont eu des contraintes énormément très très importantes au niveau des matières premières qu'on leur donnait à manger. Et puis, il y a une nouvelle tendance. Cette nouvelle tendance, elle a été portée par des industries, en particulier des industries du recyclage des matières premières végétales, qui se sont dit, ben, sur ces matières premières végétales qu'on veut recycler, qui sont des matières premières non conformes, qui sont des coproduits de l'alimentation humaine, voire même de l'alimentation animale, il y a des insectes qui peuvent se développer. Ça peut servir de ressource pour cultiver. On utilise le terme cultiver des insectes. Ça veut dire produire certains insectes, alors pas tous, hein, c'est des insectes bien ciblés, qu'on peut faire se développer à partir de ces ressources-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ces insectes? Parce que c'est bien beau, vous avez une matière première végétale dessus, vous y mettez quelques insectes, bah, vous obtenez des insectes. Ah bah, on va le donner déjà aux animaux d'élevage qui sont strictement carnivores, parce qu'il en reste en Europe des animaux d'élevage strictement carnivores, c'est des poissons. Tout simplement des truites et des saumons, qui sont des animaux carnivores. Donc carnivores mangent de la viande. Donc traditionnellement, on leur donnait à manger de la farine de poisson, des farines de poisson sauvages. Donc on allait pêcher au large des poissons, qu'on réduisait en farine, et qu'on donnait à manger aux poissons d'élevage. Vous imaginez la durabilité du truc. À la fois épuisement des ressources naturelles, perte d'énergie, puisque quand on donne un poisson à manger à un poisson, ben on perd de la valeur, et puis, on va dire, désastre au niveau économique aussi, puisque évidemment ces poissons étaient pêchés dans des mers lointaines, avec plusieurs intermédiaires. Donc pour pouvoir avoir une suffisance alimentaire sur les poissons d'élevage, pourquoi pas les nourrir avec des insectes. Et donc c'est une matière première qui a d'abord été testée en élevage de poissons, tout simplement parce que la législation européenne permet de nourrir les poissons d'élevage avec des matières d'origine animale, puisque c'est des carnivores. En fait, les seuls animaux qui ont le droit d'être nourris avec des matières premières d'origine animale, c'est les animaux domestiques carnivores, les animaux de compagnie, les chiens, les chats, et puis les poissons. Tous les autres avaient le droit simplement aux matières premières végétales et minérales. Et puis, ben, les professionnels de l'alimentation animale, maintenant, se demandent si à un moment ou un autre, on va pas pouvoir réintroduire ces insectes, si on arrive à les produire, dans l'alimentation des poules, dans l'alimentation, pourquoi pas, des porcs, pour avoir, non pas une alimentation 100% à base d'insectes, parce que c'est complètement irréaliste, mais le 1 ou 2% qui manque à ces animaux pour avoir un tube digestif qui fonctionne bien. Parce que mine de rien, le poulet, il a pas choisi d'être vegan, et je pense que si on lui posait la question, il préférerait manger quelques insectes de temps en temps, en plus du maïs et du blé qu'on lui donne à manger. Et ça permettrait aussi de diminuer les importations de soja, qui se font pour l'instant à partir du Brésil et puis à partir des États-Unis, qui sont des sojas qui sont produits de manière, on va dire, conventionnelle, et pour la plupart qui sont issus d'OGM, voire même pour certains accusés de participer à la déforestation de l'Amazonie. Bon, ça reste, on va dire, du domaine de l'investigation, mais pour pouvoir retrouver une autonomie au niveau des matières premières qu'on donne à manger aux animaux d'élevage, les insectes sont une solution.
Voilà, eh bien, tant pis pour nos auditeurs véganes. Vous voyez, les poulets ne sont pas par nature véganes. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire, pour conclure et inviter nos auditeurs à aller à cette conférence, est-ce que finalement, ça se rapproche du bien-être animal? C'est l'idée de ce supplément en insectes, puisque c'est souvent une thématique qui revient chez les personnes véganes qui sont soucieuses du bien-être animal.
Oui. Oui, oui. Alors, si on est vegan, on n'est pas soucieux du bien-être animal, parce que on n'utilise plus les animaux, donc ils sont voués à disparaître. Mais en revanche, si on a un ressentiment positif vis-à-vis des animaux d'élevage, tout ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu est quelque chose qui est de plus en plus travaillé maintenant par un secteur de scientifique qui s'appelle la zootechnie, donc l'étude des animaux d'élevage, et les insectes sont une très bonne solution d'enrichissement du milieu. Par exemple, distribuer des insectes vivants à des poulets ou à des poules permettrait d'avoir une activité de diversification qu'ils ne peuvent pas trouver ni dans les bâtiments, ni dans ce qu'on appelle les parcours dans lesquels on les laisse aller à l'extérieur, puisque ces insectes leur permettraient d'exprimer un des comportements naturels qui est le comportement de prédation, hein, qu'ils ont perdu dans les élevages.
Merci Christophe Bressac. Donc je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, l'IRBI, et qu'on pourra venir vous écouter le mardi 28 janvier à 18h30, salle Sangor, 1 bis rue de la Préfecture, pour la conférence « Les insectes dans les filières alimentaires, évolution et révolution ?» Point d'interrogation. C'est une conférence qui est tout public.
Tout à fait.
Voilà. Et est-ce qu'il y a un site peut-être de l'IRBI où on peut retrouver...
Un site internet de l'IRBI, oui, unif-tour.irbi, où on tape IRBI directement dans son moteur de recherche préféré, et on tombera à ce moment-là sur le site internet de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte.
Eh bien, merci encore à vous et chers auditeurs, on se retrouve à l'heure de sortie puisque Chloé recevra le TEDx Tour. Bonne journée à tous, à l'écoute de nos programmes.